Prenez avec moi la première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 2. Et avant de lire ce passage dans 1 Jean 2, versets 12 à 14, j'aimerais ce matin parler de croissance spirituelle et de maturité. Dieu nous appelle à la croissance, à la maturité. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage, je pense, comme chacun, de Patricia. On se réjouit de ce que Dieu fait. Et on voit là des signes de croissance spirituelle. Elle en était là à un endroit, et puis Dieu l'amène plus loin parce qu'il veut notre croissance, il veut notre développement. Lorsque Jésus appelle ses disciples, on voit ça dans les évangiles, il les appelle par leur nom, puis il leur dit, on voit ça régulièrement, suis-moi. À Matthieu, il lui dit, toi, bah, suis-moi. Matthieu, Lévi, ça dépend quel évangile vous lisez. Et puis il lâche son boulot, collecteur d'impôts, hein, voilà. Et puis. Il suit Jésus et puis la première chose qu'il fait, je vois si vous vous rappelez, je crois que c'est dans Matthieu 9, il va faire un repas chez lui et il invite ses collègues. Donc il y a tous les collecteurs d'impôts. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille à l'administration fiscale cantonale. Il entend la voix de Jésus, il suit Jésus et puis il invite tous ses collègues du boulot à la maison. Venez, voilà, j'ai envie de vous inviter à manger. Évidemment, il y a Jésus à ce moment-là et puis il y a aussi des gens pas très bien disposés, qu'on appelle les pharisiens. Et puis, il casse encore du sucre sur Jésus, une fois de plus. Et ouais, bref. Mais c'est génial. Si on regarde à Lévi, ce qui lui est arrivé, il fait d'après là où il en est. Et puis, il y a croissance spirituelle. Il entend la voix de Jésus et il le fait croître. Et ce qui est génial dans la vie chrétienne, c'est qu'en fait, Jésus nous appelle, il nous prend là où on est, mais il ne veut pas qu'on en reste là, il veut qu'on grandisse, qu'on se développe. Et regardez les disciples, des fois on se moque un peu d'eux, hein, quand même, un petit, mais il y a matière. Hein. Par exemple, à un moment donné, ils discutent entre eux, et puis Jésus fait mine de ne pas entendre, ou alors il entend spirituellement la discussion, je ne sais pas. Mais ils discutent entre eux, puis de quoi ils discutent? Ils discutent de c'est qui le meilleur? C'est qui le capitaine de l'équipe? Hein? C'est qui le numéro 10 de l'équipe? Alors, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, certainement, mais ils discutent rivalité. C'est des êtres humains, quoi. Hein? Ils discutent, puis Jésus se tourne vers eux et dit, mais vous discutez de quoi, au fait, là? Et puis, il n'y a pas un qui l'ouvre. Parce que Jésus, avec sa présence, son autorité, son amour aussi, ben, il met les choses en place. Puis, il leur dit, à demi-mot, mais il leur dit quand même, ben, si vous voulez servir, si vous voulez être le premier, pour rappeler le verset, qu'est-ce qu'il faut faire? Servir et être l'esclave de tous. Donc, il les fait grandir. Vous n'allez pas en rester là, les gars. Vous me suivez, mais je vais vous apprendre le chemin que je vois pour vous. La meilleure route, c'est que vous appreniez à pas être des rivaux, pas être le meilleur par rapport aux autres, ou celui qui veut être le meilleur, eh ben, il doit apprendre à servir. Il doit être comme ce petit enfant. Un autre passage aussi. Et je trouve génial. Alors, là où tu en es avec Jésus, il te prend, et puis il veut te faire grandir et te développer. Et ça, c'est extraordinaire. Il ne vient pas à nous en nous condamnant, en disant, il y en a marre que tu en sois là, mais il dit, OK, je te prends là où tu es, et si tu es d'accord, je te fais grandir. Et peut-être qu'on a dans nos vies, en ce moment, un thème qui nous travaille, c'est le Saint-Esprit qui nous travaille individuellement, puis qui nous dit, là, je veux que tu grandisses. En l'occurrence, c'était les finances tout à l'heure, n'est-ce pas? Je veux que tu grandisses. Dieu veut vous apprendre, en fait, comment gérer vos finances selon les principes du royaume de Dieu. Et il y a encore plein de choses à apprendre, vous inquiétez pas. Mais vous avez vu la grâce de Dieu. Vous en êtes à la grâce de Dieu et c'est génial parce que c'est toujours sur cette base-là, durant toute votre vie, vous allez savoir que Dieu, il est capable de pourvoir à vos besoins et même d'en avoir davantage pour qu'on bénisse les autres, par exemple. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, où tu en es avec Jésus. Qu'est-ce qu'il t'a dit ces derniers temps? Mais Dieu, il veut que tu grandisses. Jésus veut que tu grandisses. Et ça, c'est trop bien, c'est extraordinaire. Qui c'est qui veut grandir ce matin? Moi aussi, j'en veux, hein. J'en veux. Alors, l'aliment qui nous fait croître, par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est ce que dit Jésus. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger, évidemment, la parole de Dieu, l'enseignement et la Bible. Alors, 1 Jean 2, 12 à 14 nous parle aussi de croissance. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, il y a des petits enfants. Les péchés sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, pères, les pères spirituels, les mères spirituelles, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, encore une autre catégorie, parce que vous avez vaincu le mauvais, Satan. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Alors dans ce texte, on voit un peu le programme de croissance de Jésus pour nous. De petits enfants, de jeunes gens, vous mettez au féminin bien sûr, et de pères. Petits enfants, jeunes gens et pères. Et tout ça, ça parle de maturité spirituelle, de croissance. Ça ne parle pas d'âge, n'est-ce pas ? On peut être âgé et petit enfant, spirituellement parlant, et puis on peut être très jeune et puis déjà avoir une maturité de jeunes gens et de pères ou de mères spirituelles. L'objectif pour Jésus, c'est que tous, on soit des pères et des mères spirituelles, et pas qu'on reste des petits-enfants ou des jeunes gens. Il veut nous faire grandir, étape par étape, et ça prend du temps. Et c'est l'image de la vie, n'est-ce pas ? On était enfant, on est devenu ado, jeunes gens, jeunes adultes, et puis l'idée aussi, c'est qu'on devienne père et mère spirituelle, c'est-à-dire qu'on puisse enfanter. Et puis être père et mère spirituelle, ce que Jésus désire, c'est qu'on puisse faire des disciples. De Jésus, pas de nous, mais de Jésus. Ça, c'est le but. C'est le but. Alors, on pourrait regarder derrière soi ou son CV spirituel et dire, tiens, qui j'ai pu amener à Christ ou enfanter à Christ ? Qui est devenu jeune gens grâce à moi ? En partie, bien sûr. Ou qui est devenu adulte grâce à moi ? Et si on se dit, bah oui, comme l'apôtre Paul, j'ai pu enfanter à Christ quand il parle aux Galates, alors il y a une certaine maturité spirituelle qui est là. Et j'ai remarqué dans le ministère, que plus les gens ont de la maturité spirituelle, moins ils s'estiment matures. Et plus ils se rendent compte qu'ils sont faibles et dépendants de Christ. Donc c'est intéressant, les courbes s'inversent à quelque part. Le regard sur soi-même change au fur et à mesure de la maturité avec Christ. Quand on est là en disant « Waouh, c'est génial où je suis arrivé », il y a encore un peu de chemin à faire, d'accord ? Au niveau de la simplicité, de la modestie, certainement. Voilà, donc le but, c'est que tous et toutes, on devienne des pères et des mères spirituelles. Puis vous allez me dire, mais ouais, moi, il y a encore tellement de boulot à faire, je ne sais pas comment il va se débrouiller. Ne vous inquiétez pas, soyez fidèles. Restez tout près de Jésus, comme les disciples. Restons tout près de Jésus, jour après jour. Tout à l'heure, quand on était dans la salle d'école du dimanche, là, je vois cette arche de Noé sur le mur. Et puis je me dis, mais c'est quand même génial, Dieu il parle aux Versoisiens, avec le lac, le bateau. Il nous parle, Jésus nous parle dans ce qu'on connaît de tous les jours, dans la vie de tous les jours. Quand on regarde à nouveau avec les disciples, et qu'il chemine avec eux, il les prend là où ils en sont, et puis il leur parle dans le quotidien qu'ils vivent. N'est-ce pas ? Il leur parle parce qu'ils sont à la campagne, il leur parle des champs, il leur parle des oiseaux, il leur parle de quoi d'autre ? À Pierre et Jean qui étaient pêcheurs, il leur parle avec les filets, il leur parle avec tout leur quotidien. Dieu, il ne veut pas nous parler des trucs hyper spirituels puis détachés du quotidien, mais il nous parle avec ce qu'on est. Et c'est ça qui est trop bien dans la vie chrétienne. Tout à l'heure à midi, il peut vous parler au repas, tout à l'heure, enfin voilà, l'histoire du, pourquoi pas, du rétroprojecteur, il y a des choses à lâcher. Et ça, c'est passionnant. Et tout le monde peut entendre la voix de Jésus qui lui parle là où il en est. N'est-ce pas ? Soyons attentifs dans nos journées, au boulot, soyons attentifs spirituellement à ce qu'il veut nous dire. Si les choses reviennent, c'est que la voix du Saint-Esprit insiste sur telle ou telle chose et nous dit des choses pour notre vie importantes. Et puis aux responsables, bien sûr, il parle pour la communauté, il donne une vision, une direction que eux reçoivent. Alors, petits-enfants, c'est un terme affectueux, on est d'accord, hein, petits-enfants. Jean écrit à cette communauté ou au lecteur, ici, l'apôtre Jean, le prophète Jean, on pourrait mettre le titre qui ressort dans les Écritures, mais Jean est surtout pour Jésus le disciple bien-aimé, et pour lui-même. Ça veut dire, je suis un disciple normal. Quand même, hein. On imagine Jean un peu plus que disciple normal, mais n'empêche qu'il ne se met pas en avant parce qu'il veut mettre Jésus en avant. Petits enfants, je vous écris. Si à la place de petit enfant, on mettait le terme disciple, un disciple, qu'est-ce que c'est pour vous un disciple ? Est-ce que tu es disciple de Jésus ? Alors la première définition du disciple, je pense que vous la savez quasi tous, vous savez ce que c'est ? C'est quelqu'un qui ? Oui, quelqu'un qui suit Jésus. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Vous avez eu votre enseignant ou tel enseignant que vous avez admiré, ben vous l'avez suivi quelque part. Vous étiez un peu disciple de cet enseignant. Être un disciple, un petit enfant disciple. Donc on est tous, on va dire, on est tous disciples ce matin. Et puis il y a les différents stades, petits, jeunes gens et parents spirituels. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Première étape, on reconnaît Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie. Et rien que de dire ça, à certains endroits du monde, ça peut coûter la vie, de le dire publiquement, de le témoigner. Mais premier stade du disciple, c'est quelqu'un qui a Jésus comme sauveur, en dehors de lui, point de salut, et seigneur de sa vie. Alors si c'est le cas ce matin, alléluia. Avez-vous déclaré publiquement que Christ est votre sauveur et votre seigneur ? Un disciple déclare, je sais que Jésus est seigneur et sauveur de ma vie, je l'accepte, il est mon autorité supérieure. C'est ce que la cohorte, je ne sais plus son nom, à Saint-Maurice, là en Valais, vous savez l'histoire peut-être, lorsqu'il fallait offrir de l'encens ou adorer l'empereur, une certaine cohorte qui était devenue chrétienne, enfin en grande partie en tout cas, eh bien, n'ont pas voulu adorer l'empereur. Ils ont dit, on sert l'empereur, mais nous ne l'adorons pas. Et puis, ils ont été égorgés à l'entrée du Valais, à Saint-Maurice. Quel témoignage extraordinaire. Ils ont donné leur vie à Christ. Lui seul, il voulait l'adorer. Il servait l'empereur, mais pas plus que ça. Et donc, ça a coûté leur vie. Est-ce que ça coûte notre vie aujourd'hui d'être disciple ? Ça devrait. Renoncement à certaines choses, n'est-ce pas ? Lâcher des choses qui nous sont chères ou qui nous donnent une satisfaction, mais voilà, qui est temporaire. Mais gagner Christ. Et Paul le dit plusieurs fois dans les Épîtres, je lâche tout afin de gagner Christ. Gagner Christ. Et il y a un mensonge des fois qui court dans nos pensées, qui dit, ah mais si je lâche ça, si je donne à Christ, je vais devoir lâcher ça. Oui, certainement tu vas devoir le lâcher, mais ça ne veut pas dire que tu dois tout abandonner. Je fais des choses dans ma vie, puis j'ai l'impression que Dieu est d'accord. N'est-ce pas ? Dans des hobbies. J'ai l'impression qu'il me bénit là aussi. Donc voilà, ça me fait dire que peut-être qu'il est quand même un peu d'accord avec ce que je vis dans ma vie autre que pasteur, certainement. Mais oser tout lui donner, oser tout lui remettre jusqu'à notre agenda, notre emploi du temps. Et là, il y a aussi peut-être un défi. Un disciple, c'est aussi quelqu'un qui est changé par Jésus. Et ça donc, moi en tant que berger d'une communauté, ça me tient à cœur. Et j'ai envie que les gens, et ma propre vie, soient changés par Jésus. Que ce que je serai l'année prochaine à la même heure, à la même date, je sois différent, que j'ai grandi avec Christ. Et je veux que mes brebis, entre guillemets, du troupeau haonais, puissent être changées par Jésus. Ça me désole s'ils ne progressent pas. Je veux, dit Paul à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, est-ce que nos progrès spirituels sont évidents pour tous ? Est-ce qu'on grandit, par exemple, dans la prière ? Je dis pas, je parle pas de quantité, mais de relation avec Christ et avec nos frères et sœurs. Est-ce qu'on grandit dans notre manière de voir les finances, par exemple ? Est-ce qu'on grandit là ? N'est-ce pas ? Il y a rien de pire que de ne pas vouloir grandir. Hein, c'est une maladie spirituelle, ça, je sais pas, mais Dieu veut qu'on grandisse, c'est son désir. Changé par Jésus, et puis là on se régale quand on lit les évangiles, quand on voit Jésus qui reprend, corrige, édifie, encourage ses disciples, et quand on voit ce qu'ils deviennent. Dieu est bon parce qu'il a permis qu'on ait les actes des apôtres, et aussi les épîtres, on voit la croissance des disciples. On parlait de Jean, mais Pierre, il a grandi, n'est-ce pas ? De fougueux, d'impétueux, d'inconscient peut-être. Eh ben, il devient homme de foi, apôtre, c'est-à-dire qu'il enseigne l'Église, il nous enseigne encore aujourd'hui par les Épîtres. Quelle croissance, hein? Quelle croissance! Où en sommes-nous avec notre croissance? Et ça, c'est important. C'est important. Jésus nous fait grandir par sa parole et lorsqu'on s'attache à lui. Et puis, autre chose, donc un disciple, il suit Jésus, il est changé par Jésus, et puis il est engagé dans la mission de Jésus. Engagé dans la mission. Très tôt, Jésus a dit à ses disciples, « Ok, vous me suivez, je vais vous changer, mais il y a une mission, il y a un job à faire. Hein, » Que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça. Il y a la mission, il pose l'offre d'emploi, ou l'exigence qui est là, « Va par le monde, entre guillemets, sauve les gens. » Voilà. En mon nom, tu sauves les gens. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est pas nous qui sauvons. Et puis, s'il y a des malades, tant qu'à faire, guéris-les. S'il y a des morts, tu les ressuscites. S'il y a des lépreux, tu les purifies. Voilà. En mon nom. D'accord? C'est pas nous, mais c'est en son nom qu'on le fait. Et puis, dans notre quotidien. Quelqu'un enseignait par rapport au thème de la mission de Matthieu 28, hein, aller par tout le monde, et il disait, ce que le texte veut dire, d'être des témoins dans ce monde, c'est soyez mes témoins dans votre monde. Dans votre monde. Hein, on pense vite peut-être des fois à l'étranger, à ceux qui sont loin, mais soyons témoins dès aujourd'hui, dès maintenant, dans notre monde, là où on en est, avec le voisinage, avec voilà, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, n'est-ce pas? Dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est. On est ses témoins. Et puis certains le font avec plus de facilité que d'autres. Et c'est bien, c'est normal, c'est comme ça. On les appelle les évangélistes. N'est-ce pas? Et Dieu les qualifie, et il leur demandera des comptes à eux, évangélistes, et nous aussi, si nous ne le sommes pas. Engagés dans la mission de Jésus. Dieu a un but pour ta vie. Ne soyons pas juste contents d'être sauvés, mais donnons notre vie, mettons-la dans les mains du Maître, en disant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors ça, c'est un petit peu les petits-enfants. Il y aurait tellement à dire. Au bout d'un moment, Dieu n'est pas tendre avec ceux qui ne veulent pas grandir. Dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux 5, 6, il leur dit « Mais vous auriez dû être des maîtres, des pères et des mères spirituels. Pourquoi je dois de nouveau poser le fondement ?» Vous voyez, il y a des choses. Alors c'est vrai que Dieu... Des fois, il nous rappelle les choses, il nous enseigne à nouveau. Mais le but, c'est qu'on puisse grandir, qu'on puisse arriver à maturité, encore une fois. Donc, je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Connaissons-nous le Père? Connaître Dieu, non plus comme Dieu, mais comme un Père, comme notre Père. C'est-à-dire lui qui est la source. Hein. Le Père, c'est celui qui est la source, qui est à l'origine. Connaître le Père, connaître l'amour du Père. L'amour du Père ne changera jamais, n'est-ce pas, envers toi. Ça, c'est un bon fondement, hein. Faut peut-être le rappeler ce matin. Dieu nous aime et il ne changera jamais pour son amour. Il n'est pas fluctuant. Il n'y a pas ombre de variation même. Il n'y a pas une seule, sur l'oscillographe, il n'y a pas un seul changement. L'amour est toujours à 100% l'amour du Père. Et ça, c'est bon de se le rappeler. Les petits-enfants spirituels, ont de la facilité, ça c'est un peu l'expérience, avec les quelques années de ministère, ont de la facilité à partager leur foi avec leur entourage qui n'est pas encore sauvé. Quelqu'un qui est nouveau converti, paf, le témoignage, facile, easy. À la Migros, n'importe où, voilà, on partage le témoignage. Et ça c'est génial, hein. Et ça remet en question les personnes de l'Église qui sont là depuis longtemps. Ouais, quand même, Patricia, ce qu'elle vit, trop bien, hein, ça nous booste. C'est bien, et c'est voulu de Dieu. C'est voulu de Dieu. S'il y a une église qu'avec des nouveaux convertis, ça va poser problème. Hein. Il faut des responsables mûrs, il faut cadrer les choses, il faut dans l'amour, mais voilà. Mais c'est bon, et ça nous remet en question, et ça c'était génial. On a une personne qui s'est convertie par Internet dans la communauté à Aonais. Puis témoignage fort, hein, vraiment puissant, quoi. Conversion... Puis elle a le courage, elle tape « Pasteur Aonais », puis ça tombe sur moi. Donc évidemment, je sais pas comment il fait Google, mais il sert Dieu. Bref, on s'est vu, on discute, puis c'est parti fort, quoi, une conversion, mais alors radicale, hein, prier pour les malades dans la rue, dans le voisinage, casser les pieds un partout, quoi. Mais Dieu l'utilise, n'est-ce pas? Alors je suis obligé quand même de lui dire « Écoute, c'est enregistré là. Ouais. Bon. Faudra pas qu'elle écoute, mais je l'aime beaucoup. Je suis obligé de lui dire, écoute, c'est bien comme tu fais, mais des fois tu peux faire des dégâts. Sois consciente, laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Voilà, laisse-toi convaincre de la direction. Est-ce que tu dois prier, parler à cette personne? Oui, non, et quoi dire? Vous voyez, il y a une croissance à avoir, mais c'est bon et ça booste l'Église et je bénis Dieu pour ça. En général, quand la personne se convertit, les gens, l'entourage voient une grande différence. Waouh, c'est trop bien ce qui se passe, mais qu'est-ce qui lui arrive? L'entourage. Hein, on est content pour la personne qui s'est convertie, en règle générale, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis converti, je ne sais pas si je vous avais dit ça, mais mes parents ont dit, j'avais 19 ans, mes parents ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a rangé sa chambre. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est vrai, hein? J'invente rien. Hein, Qu'est-ce qui lui arrive? Mon père dit, qu'est-ce qui lui arrive? D'accord. Puis après, ils sont venus à l'église et puis ils ont fait aussi des démarches de conversion. Et Alléluia, merci Seigneur. Assez vite, aux yeux d'un nouveau converti, d'un petit enfant, l'église fait preuve d'immobilisme. Ouais, vous devriez plus faire des œuvres sociales, vous devriez plus prier, plus aimer les gens, plus, voyez? Donc c'est un signe d'impatience ouais, un signe d'impatience et d'immaturité spirituelle. Parce que Dieu prend soin de son église et puis l'église avance, n'est-ce pas? L'église avance peut-être pas aussi vite que ils aimeraient, mais ça avance quand même, n'est-ce pas? Les responsables sont fidèles, ils sont engagés, etc. Donc les nouveaux convertis, on se calme, tout va bien, n'est-ce pas? L'église avance. Mais voilà, et on devient, il y a une famille spirituelle qui est là pour aider à la croissance. Alors, les nouveaux convertis ne peuvent pas avoir l'expérience de la parole de Dieu, n'est-ce pas? On peut pas. Il y a les nouveaux convertis qui se convertissent, qui connaissent toute la Bible et qui voient le monde spirituel comme Dieu les voit, c'est pas possible. Ça prend du temps. Donc, parfois, une personne qui vient à Christ, elle fait pas trop la différence entre, excusez-moi, hein, telle ou telle religion. C'est un peu confus. Le monde spirituel, peut-être, elle comprend qu'il y a un monde invisible, mais des fois, ça lui fait peur ou des choses comme ça. Et c'est normal. Donc, il faut accompagner, les pères et les mères spirituelles accompagnent et donnent la bonne vision. Attention à ne pas donner aux petits-enfants une responsabilité. Je ne parle pas de service, mais de responsabilité. Paul le dit dans 1 Timothée 3,6. Il ne doit pas être non plus nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. N'est-ce pas? Donc là aussi, il y a une prudence, il faut laisser croître. Comme dit Paul à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas exercer des responsabilités plus tard. Ceux qui sont un peu prophétiques dans l'Église, ils voient en général l'onction que Dieu met sur la personne, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre tout de suite en poste, en responsabilité. Les jeunes gens, on y va? Jeunes gens, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin, le mauvais. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin deux fois, il le dit. Un jeune gens spirituel réalise la victoire sur Satan. Christ est pas seulement mort à la croix pour les péchés, mais il a renversé, il a dépouillé le monde spirituel invisible. On peut dire, ouais, mais Satan, il agit encore quand même. Ça, c'est une remarque de jeunes chrétiens. Satan, il agit encore, il essaie de détruire. Oui, c'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas encore le royaume de Dieu qui est annoncé et posé. Dès que dans une région, dans un endroit, dans une vie, le royaume est reçu et annoncé, Satan n'a plus prise officiellement. Officiellement. On est d'accord avec ça, hein? Et Satan est vaincu. Tout esprit mauvais, impur, est vaincu. Et c'est dans la défaite. Donc on n'est pas. Pour les jeunes gens, ils réalisent qu'il y a une victoire qui est là. Et ils apprennent à ne plus paniquer quand les circonstances spirituelles sont mauvaises, hein, sont par Satan lui-même. Je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Mais il y a une croissance spirituelle là à avoir à ce niveau-là. Les jeunes gens réalisent que leur force ne vient pas d'eux-mêmes, mais de celle de Jésus lui-même. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que tu es dans cette situation-là, à dépendre de Christ? Seigneur, hein, c'est super à contre-courant de l'esprit du monde, hein, où on nous apprend à être autonome, à être tout le temps fort. Si vous regardez les pubs à la TV, c'est incroyable le nombre de pubs qu'il y a pour être toujours au top. Voyez, si t'as un coup de moins bien, tu prends tel médoc, tel médicament, etc. C'est incroyable. Il faut toujours être performant. Mais Jésus nous dit, mais je veux pas que tu sois performant, je veux que tu sois dépendant de moi. Et ça, c'est le stade de maturité des jeunes gens. Vous avez vaincu le mauvais. Ça veut dire que ma victoire, c'est votre victoire. Hein, on peut pas chasser un démon par ses propres forces, mais c'est au nom de Jésus. On prie pour les malades au nom de Jésus. N'est-ce pas? On sait très bien qu'on ne peut pas guérir nous-mêmes, mais lui le peut, etc., etc. Et on fait ainsi l'œuvre de Christ. Les jeunes gens participent à la transformation du Saint-Esprit. Romains chapitre 12, il est dit que de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est fabuleux. Jésus, non seulement veut nous changer dans notre système de valeurs, mais il veut nous apprendre avoir une intelligence renouvelée. Romains 12, une intelligence renouvelée, c'est-à-dire une vision du monde comme lui il l'a, comme lui il l'a. Une vision du monde de compassion, de passion, de tendresse, de puissance aussi. J'aime beaucoup, enfin je prie pour avoir des gens, des jeunes gens dans l'église, là où je suis, parce que je sais que je peux commencer à compter sur eux. Ils sont non plus centrés sur eux-mêmes, mais ils sont centrés sur Dieu et ils apprennent à être centrés sur les autres, à aider les autres. Ça, ça devrait faire plaisir aux responsables, ce que je dis, de la communauté. On crie toujours en disant « qui va nous aider, n'est-ce pas ? Qui comprend ce qui est sur notre cœur ?» Et ça, c'est les jeunes gens, centrés, entre guillemets centrés, hein, sur les besoins des autres, c'est-à-dire croire que Jésus va aider les personnes. Ça, c'est un signe donc de croissance et ça fait plaisir. Leur approche pour l'évangélisation des jeunes gens, elle est maintenant plus stratégique, n'est-ce pas ? On ne va pas évangéliser sur tout ce qui bouge, pourquoi pas, mais on va dire « Seigneur, vers qui je dois donner mes efforts de prière, de témoignage ? Seigneur, tu vois, j'ai cette personne à cœur, qu'est-ce que je peux faire pour elle ? Prie, continue de prier, sois là au bon moment, au bon endroit, je vais diriger les circonstances, tu vas être un témoignage pour cette personne. » Voilà, on est plus ciblé quand on devient jeune gens spirituellement parlant. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, il ne faut pas évangéliser spontanément, loin de là. Je remarque aussi que les jeunes gens, et c'est riche ça, eh bien, je peux leur confier un sujet de prière délicat dans la communauté. Tiens, Teresa, est-ce que je peux te dire ça ? Est-ce que je peux te confier ce sujet de prière ? Ça me pèse, il y a telle ou telle situation dans la communauté. Et je sais qu'elle ne va pas le divulguer à droite à gauche, par exemple. Hein, n'est-ce pas ? Mais si je confie tel ou tel sujet de prière à une personne qui est un peu immature, ça risque de faire des dégâts. N'est-ce pas ? Et ça va se retourner contre moi, certainement. Voilà, l'importance de la loyauté et le sentiment très important aussi de redevabilité. Alors, on pointe un peu du doigt ce matin le conseil administratif de la ville de Genève, n'est-ce pas ? Vous avez appris ce qui s'est passé. Puis on pourrait leur dire, mais quel manque de redevabilité. Ils ont, pour ceux qui ne savent pas, ils ont mis dans leurs frais, ils ont tout balancé, entre minuit et 6h du matin, tous les tickets qu'ils avaient. Pas tous, hein, pas tous. Hein. Voilà, mais ça, on en sourit, mais ils n'ont pas eu le sentiment jusqu'à présent de redevabilité. Ou peut-être qu'il y a un système qui est comme ça, puis personne ne leur a dit, ben, tes bouteilles d'alcool, c'est toi qui les payes. Ton abonnement de Natel à 17 000 francs par année, quand même. Vous voyez ? Mais ce sentiment de redevabilité, à nous, en tant que chrétiens, on se doit de l'avoir. On est redevable envers Jésus, et puis on est redevable envers les responsables de la communauté, là où Dieu vous place. Et ça, c'est important. Et c'est bon pour les responsables de dire, ah ben, cette personne, je peux compter sur elle, parce que je sais qu'elle a un sentiment de redevabilité. Ce que je lui confie, elle va me dire, voilà, comment ça s'est passé, si par exemple, je vais demander à quelqu'un, tiens, est-ce que tu veux faire une visite avec moi ? Et bien après, la personne, certaines c'est spontané, puis d'autres pas, me dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit à ce moment-là ? Vous voyez, un sentiment, un désir de croissance. Et je crois que le Saint-Esprit, vraiment, il est important. Enfin, il veut s'impliquer là-dedans, pour notre croissance. Et c'est des fois pas agréable, parce que Jésus nous reprend, et puis quand on fait des bêtises, ben, il nous reprend à travers telle ou telle personne, et c'est dans l'Église que ça se passe. Mais c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Ils comprennent que l'église locale a une mission que le Seigneur lui confie et sont d'accord d'y prendre part. Donc les jeunes gens ne viennent plus à l'église pour consommer seulement, mais ils viennent pour servir et pour adorer le Seigneur et être en bénédiction pour la communauté. Les pères et les mères spirituelles, et j'arrive au bout, pères et mères spirituelles, je vous ai dit, c'est le top hein, que Dieu veut qu'on atteigne. Les pères et les mères, donc d'après le verset, reconnaissent Dieu comme le Créateur dans sa sagesse, dans ses plans, dans ses intentions. Alors le verset exact dit « Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » On pourrait dire « Oui, mais les petits-enfants aussi connaissent Dieu comme Créateur. » Je ne sais pas si vous avez appris ça, mais en 2014, avec l'école chrétienne où mon épouse est directrice, on est passé dans les médias, il y a eu une polémique assez monstrueuse dans les médias suisses romands. Ça a débordé en Afrique au Canada, enfin un truc monstrueux quoi. Puis nous on était là au cœur du truc, on disait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? On a été accusé d'être des créationnistes dans l'école chrétienne, là où mon épouse est directrice. Hein, créationniste avec tout ce que ça connote aujourd'hui, tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on va poser des bombes auprès de la maternité, enfin voilà, c'est tellement. Bref. Et puis, en fait, plusieurs fois, les journalistes, alors j'ai pas voulu. On avait des sollicitations pour être interviewé dans la télé. Ça, j'ai dit niet, la télé exclut caméra, on ne voulait pas. C'est la politique qu'on a eue au niveau de la communication pour l'école. Mais ma radio, au coup par coup, pourquoi pas? Ou presse écrite. Et puis, donc plusieurs fois, j'étais interviewé, soit par téléphone, soit en face, comme ça. Et puis, presque à chaque fois, quasi à chaque fois, les journalistes nous demandaient, ouais, mais. Allez, dites-nous, vous enseignez, vous êtes des créationnistes, allez, dites-le nous. Voyez, en fait, plusieurs fois, j'ai eu le sentiment que l'article était déjà écrit, puis il fallait que j'y aille, quoi. Et à chaque fois, je répondais, à partir de cette pensée-là, je dis non, nous croyons, je crois au Dieu créateur. Comme ça m'évitait de rentrer dans les polémiques scientifiques ou pseudo-scientifiques, ou, vous voyez, tout ce. Enfin, voilà, je crois au Dieu créateur. Puis c'était un peu embêtant parce que. Eux, ça les remettait un peu en question personnellement, au point que certains ont dit, bon, je coupe mon micro, il faut qu'on discute. Voyez? Et puis ça donnait des ouvertures extraordinaires. Mais le fait de dire, je crois au Dieu créateur, moi j'affirmais devant les personnes, la plupart non chrétiennes, de dire, oui, pour moi, la vie, elle a un sens, ma vie sur Terre, elle a un sens, et aux élèves de l'école Timothée, je leur dis, votre vie, elle a un sens, il y a une destinée qui est là. Et je pense que les pères et les mères spirituelles disent aux autres, ta vie, elle a un sens. Ta vie, elle a un sens. Tu choisis ou pas de faire le plan de Dieu, mais ta vie, elle a un sens. Si je vous regarde tous, je me dis, ouais, Dieu, il a un plan pour chacune des vies, un plan précis. Et ça, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Et il ne faut pas passer à côté. Amen. Donc les pères et les mères spirituelles sont capables de prononcer dans des vies, ta vie, elle a un sens, Dieu a un plan. Il va t'équiper pour cela. On voit en filigrane aussi dans ce verset, eh bien, que les pères et les mères spirituels sont des adorateurs complets de Dieu le Père. Que le plus grand service qu'ils ont, c'est d'être dans la présence de Dieu. D'être dans la présence de Dieu et de pouvoir communier. Le plus grand plaisir ici-bas, eh bien, c'est d'être dans la présence de Dieu et d'être devant le Père. L'apôtre Jean, tu as lu l'Apocalypse tout à l'heure, au début de ce livre, il dit j'étais sur l'île de Patmos à cause de la parole, donc en exil, et puis j'étais ravi. Puis on a l'impression que quand on lit ça, enfin moi c'est mon sentiment, que vraiment il est devant Jésus là, et puis c'est ce avec quoi il se délecte, la connaissance dans le sens biblique du terme de Dieu. Ils ont l'expérience de la parole de Dieu, ils ont une maturité spirituelle enviable qui fait envie d'autres. Et ils sont capables, encore une fois, de reproduire des disciples. Reproduire des disciples. L'idée ce matin de ce que je vous partage, et je termine avec ça, c'est pas qu'on soit des parfaits. On est déjà parfait en Christ. Il a tout accompli. Mais on n'a pas à se raidir en disant waouh, le programme il est long quand même. Mais on a à dire Dieu, là où j'en suis, je veux grandir avec toi. Je veux me développer. Apprends-moi. Enseigne-moi. Et l'enseignement biblique, c'est pour Jésus, l'important, c'est qu'on le mette en pratique. Voilà. Et il y a une chose que vous devez mettre en pratique ce matin, c'est la chose que Dieu vous dit. Et vous allez grandir. Une chose, ça peut être tout simple, hein. Ça peut être une histoire d'engagement de prière, ça peut être, voilà, vous avez dans votre cœur une conviction qu'il faut parler à telle ou telle personne. Et comme ça, on grandit, jour après jour. Soyez conscient que Dieu a un programme de reproduction spirituelle. Pour votre église. Les pères et les mères spirituels sont, alors c'est un mot à la mode, sont intentionnels. Sont intentionnels. Dieu, voilà, vers qui je dois, entre guillemets, vous allez comprendre, investir ma vie. Vers qui je dois, ce que tu m'as donné, je veux le donner à qui? À qui je peux le donner? Il y avait un jeune homme dans l'église d'Aunay, j'ai des vues sur lui, vous comprenez bien ce que je veux dire, en disant, il y a quelque chose sur sa vie. Il doit servir Dieu plus que ça. Alors je me suis dit, en attendant qu'il fasse pourquoi pas un jour, ça serait le top, une école biblique, je ne lui ai pas dit ça, mais je le fais lire la Bible. Donc quasi à chaque fois que je prêche, Je dis, viens, Samuel, tu vas lire pour moi, tu lis pour moi. Comme ça, il s'exerce. Alors, je sais que je suis manipulateur, mais je l'assume. Hein. Voilà, et comme ça, un jour, il n'aura pas peur du micro. Et même s'il bafouille aujourd'hui, peu importe. Mais voilà, je sais que ça va l'aider à grandir. Seigneur, je te remercie parce que tu as un programme de croissance pour chacun. Tu as un développement, une maturité. Je te loue pour la maturité qu'il y a ici dans la communauté, dans chacune des vies. Je te remercie parce que tu veux les aider et nous aider à aller plus loin, à se développer. Merci parce que tu nous prends là où on en est et qu'on n'a pas à, on n'a pas à jouer un rôle, Seigneur, mais on a à être ce que tu veux que nous soyons. Seigneur, tu n'étais pas tout le temps en train de réprimander tes disciples. Tu l'as fait quelques fois, quelques reproches. Mais globalement, tu les enseignais, tu les encourageais, tu leur montrais comment il fallait faire, ils t'ont imité, ils ont accepté de le faire. Même Judas, il a accepté pendant ces 3 ans et quelques. Ben, je te prie pour que tu nous aides à ne pas nous refermer sur ton programme de croissance pour nos vies et pour la communauté tout entière. Mais tu nous aides à aller plus loin. Tu aides ces bien-aimés ici à Versoix à se développer. Je te prie, Seigneur, pour que chacun se sente planté par toi ici dans la communauté et ainsi grandisse et porte du fruit pour ta gloire, parce qu'on veut, Seigneur, in fine, ce qu'on veut, c'est ta gloire ici à Versoix, dans cette région et là où tu nous as placés. On veut que tu sois glorifié, Seigneur notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.